Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, dans les informés spéciales présidentielles. C'est déjà lancé les amis auditeurs, c'est déjà lancé parce que nous, on n'a pas attendu aujourd'hui, à 13 jours des élections, du premier tour, pour lancer la machine de la campagne. Parce que certains disent qu'elle est boudée, d'autres répondent, eh bien qu'elle prend du retard. D'autres disent très fort que la guerre d'Ukraine envahit et empêche de parler de cette campagne. Eh bien, nous, les enfermés sur Beurre FM, plus que jamais, nous allons jusqu'au bout de ce premier tour pour essayer de vous faire vivre cette campagne. Allez, les enfermés, ce soir, édition spéciale depuis Dijon. Dijon, où le président de la République était, le président candidat, pardonnez-moi, était donc candidat à sa réélection, est en déplacement en ce moment même. J'ai cru comprendre qu'il est en pleine déambulation en ce moment, en train de rencontrer les habitants. Alors cette visite, elle est sur le thème de plusieurs, évidemment, sujets. La jeunesse, la formation professionnelle, puisqu'il a rencontré ce matin, à la mi-journée, les lycéens donc lycée professionnel à Dijon, la politique de la ville, les associations, mais également aussi avec Thierry Marx. Vous savez, cette école de formation qui forme les jeunes en direction, donc justement, de celles et ceux qui veulent prendre la direction de cette vocation. Eh bien, nous sommes ensemble, je vous le dis, pour une édition spéciale jusqu'à 20h30 s'il le faut, puisque nous serons, je vous le dis, en exclusivité avec le président candidat Emmanuel Macron. Exceptionnellement, de façon inédite, je crois qu'on est quasiment le seul média à l'avoir ce soir pour parler de plusieurs sujets. Eh bien, nous parlerons de la politique de la ville, des discriminations, de la méritocratie, de la stigmatisation des habitants des quartiers populaires. Nous parlerons aussi, mesdames et messieurs, de l'islamophobie, qui est plus que jamais d'actualité. Et on finira avec l'abstention, le vote de notre jeunesse, de cette jeunesse des quartiers populaires et de leur avenir. Et puis finalement, ne faut-il pas réformer la politique de la ville? Je la poserai cette question. N'est-il pas aujourd'hui temps de changer peut-être et de réformer cet engagement de 40 ans de politique de la ville et trouver peut-être une autre notion de la politique de la ville? On posera la question tout à l'heure. Alors, une série d'invités seront avec nous. D'abord, le maire de Clichy que vous connaissez, qui est un habitué de notre antenne, Olivier Klein, qui est aux côtés du président candidat Emmanuel Macron. On ouvre l'antenne avec lui. Samira Djouadani, qui est la déléguée générale de la Fondation TF1, qui était sur place, qui a animé donc la rencontre avec le candidat Emmanuel Macron et les acteurs associatifs. Elle viendra nous dire qu'a-t-elle relevé, comment ça s'est passé avec ces différents acteurs, hommes et femmes, qui ont interpellé le candidat sur les mesures. Et puis vous savez, je ne vous l'apprends pas aussi, ces 120 personnalités des quartiers populaires qui ont écrit une tribune dans le Bondi Bloc pour dire qu'on soutient Mélenchon. Je poserai aussi la question. Mais aussi, toutes ces associations qui ont écrit un article pour dire et interpeller les candidats, et notamment Macron, sur les mesures concrètes en direction des quartiers populaires ne sont pas présentes dans le programme. Ensuite, Karim Amlal du collectif Pluriel sera avec nous, mais vous aussi tous celles et ceux de toute la France, l'Hexagone, au 01 53 48 3000. Vous viendrez commenter avec nous cette actualité. Voilà le programme spécial présidentiel, jingle spécial présidentiel, les informés et en toute liberté d'expression.
Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Eh bien c'est parti, nous ouvrons l'antenne de cette spéciale 2022 avec le maire de Clichy qui a été mandaté par le président candidat Emmanuel Macron justement pour parler des quartiers populaires. Olivier Klein, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Olivier Klein, monsieur le maire de Clichy-sous-Bois. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de faire vivre
merci
évidemment cette édition spéciale consacrée à Dijon, la visite de Dijon. Donc au menu, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, Olivier Klein, monsieur le maire? Vous étiez aux côtés, vous êtes encore aux côtés d'Emmanuel Macron, le président candidat. Que s'est-il passé? Essayez de nous raconter un petit peu, nous faire vivre comment s'est déroulée la rencontre jusqu'ici avec les différents acteurs de la ville en direct de Dijon.
Ben, le président a beaucoup écouté les associations, des associations dijonnaises, des associations qui étaient venues de la France entière. Il les a écoutés sur ce qui marchait, leurs difficultés, leurs besoins pour être plus utiles aux habitants des quartiers populaires. Là, le président est en train de déambuler dans le quartier de Fontaine-Douche et c'est aussi un moment très important. On voit que à la fois il a envie d'aller au contact des habitants, mais qu'il est aussi bien reçu par ses habitants dans ce quartier emblématique du renouvellement urbain. Donc c'est une très belle journée. Et puis ce matin, comme vous l'avez dit, il était dans un lycée professionnel. Il a déjeuné avec des élèves qui lui ont parlé de leur parcours, de leur choix d'orientation, de l'intérêt que pouvaient avoir les métiers. Il y avait des jeunes qui étaient tailleurs de pierre, il y avait des jeunes qui étaient en train de travailler sur les questions du bâtiment. C'était des métiers très intéressants. Donc voilà, c'est une vraie immersion tout au long de cette journée. Et puis on a pu parler des quartiers populaires parce que on nous dit souvent que ces quartiers ont été parfois oubliés. Moi, j'ai le sentiment du contraire. Ces quartiers, ils ont été présents dans le quinquennat et ils sont présents aussi dans la campagne.
Il s'est offert un bain de foule. J'ai vu certaines images donc du candidat président Emmanuel Macron à Dijon avec notamment la population. Quels sont les échanges? Qu'est-ce qui se dit justement? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée aux côtés d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est raconté? Quels ont été, évidemment, comment l'a-t-on interpellé et sur quoi précisément, Olivier Klein?
Moi, je me suis concentré avec Samira, que vous entendrez tout à l'heure, à l'échange avec les associations. Les associations, elles ont dit beaucoup de choses sur la manière dont la NCT, l'ANRU avaient pu les soutenir, donc l'Agence sur l'égalité des territoires, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Puis ils ont aussi fait part de leurs difficultés, les associations.
Quelles sont ces difficultés, justement?
Ils ont parlé de l'accès aux soins, ils ont parlé des difficultés du vieillissement, de l'âge dans les quartiers, ils ont parlé des problématiques, des freins à l'accès à l'emploi, ils ont parlé de discrimination. Le président a redit à quel point il voulait lutter contre les discriminations, relancer des campagnes de testing. Il a voulu vraiment mettre en avant des jeunes entrepreneurs. Il y avait Moussa Camara, des déterminés, qui était présent, qui a raconté.
Qu'on connaît, bien sûr.
Voilà, et qui a vraiment une association qui aide beaucoup de jeunes entrepreneurs des quartiers à créer leurs entreprises. Et c'était tout ça qui était au cœur de ces échanges extrêmement riches. Il a pris beaucoup de temps, c'est aussi pour ça qu'on est très en retard. Il a pris beaucoup de temps, le président de la République, pour écouter, comme voilà. Il fait toujours.
Alors là, c'est le président de la République ou c'est le candidat?
C'est le candidat. Il a parlé par exemple de l'école, parce qu'il a dit que ses grands chantiers, c'était l'école, la santé. Sur l'école, il a insisté sur ce qui avait déjà été fait, les dédoublements, CP, CE1, mais aussi sa volonté de travailler sur les classes charnières, l'entrée au collège, l'entrée au lycée. Il a dit que tout ça serait des chantiers importants du quinquennat, dans la continuité de ce qui avait déjà été fait, et que ce chantier de l'école devrait être un chantier où tout le monde prendra sa place, les enseignants bien sûr, les parents d'élèves, les élus locaux. Et ça a été assez long, l'échange sur l'école, bien évidemment.
Vous-même, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, qu'est-ce que vous retenez? Quel enseignement tirez-vous de cette journée aux côtés du candidat Emmanuel Macron? S'il y a bien un élément qui vous a frappé, et comment vous l'interprétez vous-même?
Alors, sa grande connaissance des quartiers, des problématiques, de ce qui a été fait, sa capacité à écouter les acteurs associatifs, de prendre tout le temps qu'il fallait pour les écouter, et vraiment sa volonté de dire on a fait des choses, mais c'est pas suffisant. Et dans les quartiers, c'est là qu'il y a l'avenir de ce pays et on va investir pour l'avenir de notre pays encore plus dans les quartiers populaires. Il a parlé des difficultés, la paperasserie pour les associations. Il a parlé des appels à projets qui étaient trop nombreux pour les associations, pour les élus. Il a dit qu'il voulait simplifier ça et je pense que ça sera extrêmement important si on y arrive enfin, parce que ça fait longtemps qu'on promet aux associations de simplifier les choses et si on y arrive, ça sera vraiment une grande réussite.
Vous avez été vous-même mandaté par Emmanuel Macron, le président à l'époque, pour recueillir les doléances des quartiers populaires. Finalement, vous savez, je ne vous l'apprends pas, dans le Parisien, la banlieue, il se dit que c'est quand même l'angle mort de la campagne d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a plusieurs associations d'élus. Pardonnez-moi, je vous pose juste la question, bien sûr. Plusieurs associations d'élus et plusieurs associations tout court ont interpellé le candidat et ils pointent le non-intérêt du président sortant. Alors vous répondez quoi ? On lui posera la question puisque Emmanuel Macron, le président candidat, sera avec nous tout à l'heure. Vous nous le confirmez ?
Je sais qu'il essaye d'être avec vous, oui. D'abord, enfin, quel symbole ! Premier jour de la campagne officielle, première sortie, et on va dans un quartier populaire de la Fontaine-d'Ouche de Dijon. Donc pour un angle mort, je pense que c'est, on aimerait avoir des angles morts de ce type-là quand on conduit en voiture et qu'on prend des risques. Donc non, enfin, si il m'a confié avec Samira cette mission d'être relais il y a plusieurs mois, c'est bien qu'il y avait la volonté d'écouter, de rendre compte. Ça fait 4 mois qu'on rencontre des associations, qu'on rencontre des scientifiques, qu'on rencontre des journalistes, qu'on rencontre des élus locaux, qu'on les écoute, qu'on fait remonter un certain nombre de difficultés, mais aussi de points positifs, parce qu'il y a eu plein de choses positives de faites dans nos quartiers. Ne l'oublions pas. Hein. Enfin, la manière dont le quoi qu'il en coûte a été perçu dans nos quartiers, la manière dont on a fait partir plusieurs milliers, centaines de milliers d'enfants en vacances quasiment gratuitement, depuis 2 étés avec les colos et les vacances apprenantes, c'est pas tombé du ciel, c'est un choix politique de notre président. Et donc, moi, je crois que ce symbole de faire cette première sortie de la campagne officielle dans un quartier populaire, y passer beaucoup de temps, et je peux vous assurer que son cheminement dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche est extrêmement long. Moi, je suis à Cuisine Mode d'Emploi pour vous répondre avec Thierry Marx, qui l'attend patiemment. Oui. Et il prend le temps qu'il faut, il a pris le temps qu'il fallait avec les associations. Il a échangé ce matin avec Mohamed Mechmache au téléphone parce que Mohamed ne pouvait pas être présent. Et il a salué le magnifique travail qu'ont fait les Passants-Nous avec ce Tour de France pour recueillir les problèmes, les doléances des habitants des quartiers populaires. Il a échangé avec Mohamed sur les problématiques de logement, les problématiques de pouvoir d'achat. Il a échangé aussi cet après-midi en toute
transparence. Qu'a-t-il répondu, Emmanuel Macron, le candidat ?
Mais il a répondu d'abord ce qu'il avait fait sur les questions de pouvoir d'achat. Il a répondu aussi la solidarité universelle. Enfin, c'est une vraie révolution, cette solidarité universelle. Le drame du non-recours dans nos quartiers est extrêmement important. Moi, je l'ai vécu, y compris comme chef d'établissement. Quand on fait pas l'effort de regarder les élèves boursiers et de les accompagner, eh bien, on a du non-recours. Eh bien là, cette solidarité à la source, je pense que ça va profondément révolutionner l'accès aux aides des habitants, notamment des quartiers populaires, mais pas seulement, et donc apporter une capacité à vivre mieux pour un grand nombre des habitants de nos quartiers.
Autre tribune, je pense que vous avez pris connaissance de « On s'en mêle ». On s'en mêle où 120 acteurs de quartier qui veulent soutenir Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils se disent déçus de la politique d'Emmanuel Macron, le président. Vous leur répondez quoi s'ils vous écoutent ce soir ? Je sais que, évidemment, beaucoup d'auditeurs écoutent ce soir. Et ce collectif, hein, collectif, association, bref, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez lu cette tribune. Hein.
Si, bien sûr. Je respecte beaucoup d'acteurs associatifs qui se sont exprimés dans cette tribune, que je connais, avec qui il m'est arrivé de travailler, bien évidemment. Moi, je leur dis de regarder la réalité du bilan. On peut promettre tout et n'importe quoi dans une campagne électorale. Moi, je connais les richesses des quartiers populaires. Le président l'a dit tout à l'heure en reprenant les mots de beaucoup d'associations. Ces quartiers sont pas un problème, mais une solution. Et je crois formellement à ça. Et donc, on peut toujours faire plus. Mais regardez la réalité. 5 milliards. Au départ du quinquennat pour l'ANRU, 12 milliards à la fin du quinquennat. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre 48 milliards au service des quartiers populaires. Ça, c'est le président Macron qui l'a fait. Malheureusement, j'aurais aimé avoir la même somme à la fin du quinquennat précédent pour les quartiers populaires. Les CPA 12, personne ne l'avait fait avant et on va voir et on voit déjà à quel point ça construit des parcours de réussite pour nos enfants. Après, on peut toujours faire plus, on peut accompagner mieux les associations et c'est ce que j'ai fait remonter après avec d'autres, après le travail qu'on a fait. Il faut simplifier et en même temps, je salue l'action des ministres de la ville qui se sont succédés, qui ont déjà apporté des simplifications aux procédures. Et puis, les contrats de ville sont en cours d'évaluation. Je ne doute pas que là aussi, il y aura des effets positifs pour que les associations, les collectivités locales arrêtent de courir après projets trop nombreux.
Dites-moi, dernière question, monsieur le maire, oui. Olivier Klein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous savez, les habitants des quartiers populaires aujourd'hui, je vous le dis clairement, Olivier Klein, se posent beaucoup de questions, énormément pour ce premier tour. Alors, le scénario que beaucoup envisagent, c'est Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces habitants qui aujourd'hui sont indécis, se posent des questions, se disent finalement, est-ce que je continue de voter Emmanuel Macron parce que j'y crois ou parce que l'inverse, j'ai envie de voter Mélenchon ou Zemmour ou Marine Le Pen ou que sais-je, parce que je veux provoquer, évidemment, une espèce de révolution. Vous leur dites quoi ?
Moi, je leur dis, évidemment, de voter Emmanuel Macron parce que c'est le seul président utile à ce pays, utile aux habitants des quartiers populaires, qui est respectueux de ces quartiers, de la richesse de ces quartiers, qui veut permettre à la fois la création d'entreprises, le salariat, une école de qualité dans ces quartiers. Et il l'a déjà prouvé. Après, le quinquennat, il a été frappé par des crises. Il a eu des grandes difficultés. Le Covid, personne ne pouvait imaginer ça. Et même dans le Covid, on a vu à quel point sa prise en compte des quartiers populaires et des plus fragiles a été au cœur de sa politique.
Merci Olivier Klein. Vous retournez voir le président candidat là ?
Bien sûr, bien sûr. Je vais reprendre la déambulation et ensuite l'accueillir dans les magnifiques écoles cuisine mode d'emploi qui font un travail remarquable d'insertion et d'insertion professionnelle.
Eh ben je compte sur vous Olivier Klein. Vous pouvez lui glisser le message suivant. On l'attend en direct à l'antenne, le président sortant.
J'ai entendu ce message et j'espère que le temps lui permettra de répondre à votre invitation.
A priori, nous a-t-on dit, les services de communication, que les choses vont se faire. Mais bon, je vous mandate.
J'ai vu qu'il en avait envie, en tout cas.
Bon, on l'attend. Merci, à tout à l'heure. Merci Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Au revoir, à très bientôt. On marque la première pause de pub et on se retrouve avec justement celle qui a animé une table ronde avec ses acteurs d'association face au président candidat. Elle s'appelle donc Samira Djouadi. Elle est la déléguée générale de la Fondation TF1 et elle aussi, elle était sur place et on va la voir pour nous raconter, nous décrire un petit peu les échanges avec les acteurs associatifs. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Présidentielle 2022 et nous sommes ensemble jusqu'à, eh bien écoutez, 20h, 20h30. On retiendra l'antenne exceptionnellement puisque nous avons décidé de consacrer ces informés exceptionnellement dans le cadre des présidentielles. Ça y est, à 13 jours du premier tour de la présidentielle, nous allons vous faire vivre l'antenne sur Beurre FM de cette élection présidentielle puisque effectivement c'est aussi notre rôle et on le fait systématiquement. Vous le savez, chers amis auditeurs. Je vous attends aussi au 01 53 48 3000. Vous, auditeurs, quelles sont vos questions que vous souhaitez poser à Emmanuel Macron, qui sera avec nous tout à l'heure, le candidat, justement, sur quoi vous avez envie de l'interpeller, je le rappelle. En tout cas, nous l'interpellerons sur les discriminations, sur la méritocratie, sur la stigmatisation, sur l'islamophobie qui préoccupe beaucoup d'entre vous, sur l'abstention, sur le vote, mais aussi sur cette fameuse politique de la ville, ne doit-elle pas changer de figure ? Voilà ce qui vous attend au programme dans le cadre de cette interview exceptionnelle. Depuis Dijon, il sera avec nous. Depuis Dijon, où il est en visite avec à la fois les lycéens professionnels, les quartiers. Il est en ce moment même en pleine déambulation. Et nous allons recevoir Samira Djouadi, qui est la déléguée générale de la Fondation TF1.
Les informer, l'interview. L'interview.
Samira Djouadi, déléguée générale de la Fondation TF1, autant dire la patronne. Bonsoir Samira Djouadi.
Salut Adil.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes à Dijon et depuis Dijon, vous avez eu une lourde tâche justement, c'est d'animer cette table ronde avec le président candidat, le président sortant candidat Emmanuel Macron, avec des acteurs associatifs. Et vous avez animé cette table ronde. Comment ça s'est déroulé, ma chère Samira Djouadi?
Ça s'est super bien déroulé. En tout cas, il y avait énormément d'acteurs associatifs qui étaient présents, à la fois local, hein, de Dijon, mais aussi sont venus en force aussi des associations nationales. Et c'était génial parce que du coup, on a pu avoir un discours très divers, à la fois du local, mais aussi prendre de la hauteur avec des grosses associations nationales.
Oui.
Donc non, c'était très intéressant. Le président a pris vraiment son temps pour répondre. D'ailleurs, il a débordé dans le temps. Je pense qu'il a dû prendre du retard pour la suite. Parce que il tenait vraiment.
Effectivement, beaucoup de retard est annoncé, effectivement.
Et voilà, il voulait vraiment que tout le monde puisse poser sa question et surtout lui prendre le temps de répondre à tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et vraiment, bravo, quoi.
Alors, Samira Djouadi, vous avez animé cette table ronde. Elle s'est déroulée, je crois, qu'à partir de 17h jusqu'à. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 18h30. Hein, voilà, c'est ça. Vous avez annoncé vous-même ce retard. Dites-moi. Quels sont les finalement, vous savez, vous qui avez animé cette table ronde, sur quoi l'a-t-on interpellé? Quels sont les sujets? On va pas tout aborder, mais quel est le principal sujet à vos yeux qui vous indique, qui vous a donné cet indicateur qu'il faut faire attention peut-être avant ce premier tour?
Alors, les points, alors je ne vais pas tout dire parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, mais je dirais les points les plus importants et marquants de cet échange que nous avons eu cet après-midi, ça a été les questions du pouvoir d'achat, vraiment. Et il a pris vraiment le temps de tout expliquer et de donner son positionnement, les idées qui vont être mises en place. Et aussi, on a eu des échanges avec des entrepreneurs qui sont venus se présenter en tant que chef d'entreprise, de montrer l'exemplarité et de dire que voilà, aujourd'hui, on ne veut plus être que des exemples. On veut que les autres jeunes qui sont issus des quartiers comme eux soient aussi demain, soient des chefs d'entreprise, soient continuent leurs études pour devenir aussi des exemples. On veut plus être des ovnis, mais une généralité dans les quartiers. Et je pense que ça a interpellé énormément notre président parce que effectivement, voilà, s'il y en a qui ont réussi, la logique voudrait que la réussite, elle soit pour tous. Donc pour qu'elle soit pour tous, eh ben, il faut mettre les dispositifs nécessaires qui vont faire qu'à un moment donné, eh ben, ce sera une réussite pour tous et non pas une réussite isolée avec quelques exemples parce que ils se sont acharnés, qu'ils ont doublé d'énergie, etc.
Oui.
On devrait tous réussir, quoi.
J'ai eu écho justement de cette table ronde avec la rencontre des acteurs associatifs. Et vous savez quoi, Samira Djouadi, j'ai eu écho et on m'a fait remonter cette information que une responsable associative l'a interpellé justement sur la question de la stigmatisation, la question aujourd'hui qu'il fallait en finir avec évidemment, je dirais, cette discrimination. Elle a notamment parlé de diversité dans les médias, dans le milieu de la culture, le cinéma, et qu'il fallait ouvrir désormais les recrutements en direction de la diversité. Franchement, Samira Djouadi, ça fait maintenant depuis plus de 30 ans que cette question est en... Elle revient en permanence. Jusqu'à quand, Samira Djouadi? Qu'a-t-il répondu Emmanuel Macron, le candidat?
Ah ben, il a répondu qu'effectivement, des réformes seront prévues, surtout dans le public, en l'occurrence, hein, puisque c'est là où la manœuvre est pour lui plus facile, mais en général, dans les médias en général. Mais effectivement, hein, comme il l'a souligné, des efforts ont déjà été effectués et vous, Adil, vous en êtes aussi témoin. Mais ça suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Il faut doubler d'efforts et il faut faire en sorte que cette diversité, elle soit plus importante dans les médias pour que justement on n'ait plus ce discours à se dire où est la diversité dans nos médias, quoi.
Exact. Justement, cette diversité, beaucoup de questions ont été, pas mal d'échanges avec Emmanuel Macron, le candidat. Qu'est-ce qui finalement, quelle est la chose qui vous a frappé sur place quand vous, là vous êtes à chaud? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Samira Djouadi?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, en plus pour moi, c'est une première, hein, ces échanges sur le terrain avec les acteurs associatifs ou autres, hein, puisque il y avait des gens qui n'étaient pas du tout dans le milieu associatif, mais qui étaient là juste pour interpeller notre président. C'était l'échange et la construction. Alors, moi, j'ai pas senti, de gens dans des positions de conflit ou des gens qui sont là pour casser. Non, les gens étaient là pour construire. Ils étaient là pour poser des questions parce qu'ils avaient besoin d'une réponse pour leur avenir, de l'inquiétude aussi, de l'inquiétude forcément suite à cette sortie de Covid. Il y a beaucoup de dégâts encore dans nos quartiers.
Mais
faut
oui.
pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Parce que c'est maintenant qu'il faut construire, parce que à la fois chez les étudiants, pour certains qui nous ont raconté qu'ils ont dû arrêter leurs études parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout des examens, etc. Oui. Donc il y a une vraie préoccupation et je pense que là, on va être dans la construction de l'après-Covid. Et ça, c'est important.
Comment vous l'avez capté, Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous avez... comment vous l'avez senti? Quelle est la perception que vous avez captée, en tout cas? Est-ce que vous l'avez senti sincère? Est-ce que vous l'avez senti habité pour un second mandat? Est-ce que vous l'avez senti concerné par ces sujets des quartiers populaires, Samira Djouadi?
Alors, je trouve vraiment qu'il est brillantissime dans sa manière de répondre aux personnes. Bien entendu, il s'est appuyé de son mandat, hein. Il sort pas de nulle part, hein. Il a un premier mandat. Il s'est appuyé de ce qu'il a pu construire, ce qu'il a pu mettre en place, etc. Donc, je dirais que le prochain mandat, c'est la construction et la continuité de ce qui a été déjà produit auparavant, qu'il a peut-être pas terminé de mettre en place. Les questions de la retraite, par exemple, ont été posées. Pourquoi pour lui, la retraite est à 65 ans quand d'autres parlent de 60 ans, quoi.
Oui.
Et donc, il a expliqué la logique des choses, qu'on ne parle pas de la même retraite à l'époque de Mitterrand que la retraite à notre époque aujourd'hui, parce que la longévité n'était pas la même. Mmh. Donc, il y a des choses très concrètes sur lesquelles, parfois, on va duper un peu la population, sur des choses qui fait que c'est logique, quoi. Hein. Il a rien inventé. Hein. Je pense que si on pouvait faire la retraite à 60 ans, c'est le premier à la mettre en place, quoi. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'il a essayé de rassurer les gens qui étaient là avec des explications très concrètes. Et donc, voilà, moi, je pense que la logique, c'est la continuité. Et la continuité, c'est un deuxième mandat pour mettre en place ce qui n'a pas été mis en place, construire... Il faut construire avec ce que nous avons subi avec le Covid. Mais vraiment, je dirais, c'est quelque chose de très logique, quoi.
Merci Samira Djouadi, la déléguée générale de la Fondation TF1, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait vivre justement cet atelier que vous avez présenté, que vous avez animé face au candidat Emmanuel Macron, qui sera avec nous tout à l'heure, vous le savez, hein, vous êtes au courant.
Oui, je vais l'écouter, on va l'écouter. Hein.
Voilà, absolument, c'est inédit, c'est exceptionnel, il sera avec nous, il nous a dit oui, en tout cas j'ai... pas mal échangé avec ses équipes de communication et je crois que nous attendons en tout cas le président candidat dans une poignée de minutes. Ça devrait se faire d'ici quelques minutes si les choses évidemment ne prennent pas de retard comme vous l'avez dit Samira Djouadi. Merci d'avoir été avec nous Samira Djouadi.
Merci à vous Adila.
Merci à très vite tout de suite, 19h33. Toujours les informés, la présidentielle exceptionnelle. On continue de faire vivre ce déplacement, le déplacement du candidat Emmanuel Macron et tout de suite après, je retrouve Maître Philippe Henri Honegger, il nous parlera de la proposition de Philippe Poutou. Justement, c'est aussi ça la campagne. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, on se retrouve juste après la pub.
Les informés reviennent dans un instant. Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Présidentielle Présidentiel 2022, il est 19h38 et on continue de faire vivre justement sur l'antenne de Beurre FM les informés, cette édition spéciale depuis Dijon. Nous sommes avec les différents interlocuteurs qui nous font remonter justement toutes ces informations à la fois avec les acteurs. Aujourd'hui on parle, vous le savez, de tout, hein, quartier populaire, politique de la ville, on parle aussi de notre jeunesse, on parlera aussi, vous savez, de discrimination, on parlera de stigmatisation, d'islamophobie. Et le président candidat Emmanuel Macron sera avec nous tout à l'heure en direct depuis Dijon, avec nous de façon exceptionnelle et inédite justement pour aborder toutes ces questions. Alors, tout de suite, maintenant, c'est le Quad 9. C'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Le Quad 9 avec justement cette spéciale présidentielle, Maître Philippe-Henri Honegger, bonsoir. Vous parlez ce soir de la proposition de Philippe Poutou d'amnistie des prisonniers politiques.
Et oui, je continue, comme chaque semaine, mon petit tour des propositions de nos candidats à l'élection présidentielle en matière de justice, en matière de pénale en particulier. Cette semaine, je me suis arrêté sur cette proposition assez étonnante de Philippe Poutou, qui effectivement indique vouloir l'amnistie des prisonniers politiques. Et c'est vrai que c'est un peu iconoclaste, parce que en France, semble-t-il, il n'existe plus depuis un certain temps de prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, c'est des gens qu'on condamne, qu'on enferme, pour leurs opinions politiques, parce que c'est des opposants au pouvoir, comme on pouvait le faire sous l'Ancien Régime, comme on peut le faire encore aujourd'hui, par exemple en Russie, pour les personnes qui osent prononcer le mot de guerre et qui se retrouvent en prison. Mais comme semble-t-il, ce n'est plus tellement le cas en France depuis un certain temps. Alors qui sont ces prisonniers politiques dont parle Philippe Poutou, prisonniers politiques qui ont disparu à la fin du 19e siècle avec la liberté d'expression et d'opinion? Et en réalité, quand il en parle, on comprend que ce dont il parle, c'est, dit-il, des Basques et des Corses. En fait, les Basques et les Corses qui ont été condamnés, notamment pour des faits commis et qualifiés de terrorisme. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il veut réhabiliter ceux qui, à un moment donné, ont manifesté pour leurs droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour des droits politiques, et qui l'ont fait avec la violence. Et c'est vrai que ça renvoie à une distinction classique qui a eu lieu au 19e siècle, d'ailleurs, pendant lequel on disait il y a les gens qui commettent des violences, ou qui commettent des meurtres, ou qui commettent des actes terribles pour des raisons crapuleuses ou autres, et puis il y a ceux qui le font pour des raisons politiques. Et ça avait beaucoup de sens au 19e siècle, parce que la Révolution française était elle-même la manifestation de violence, oui, qui était justifiée par des actes politiques. Et il essaye de renouer peut-être avec ça et avec cette idée de révolution qui est au cœur effectivement de ses préoccupations. Et on comprend ça. Le problème, voyez-vous, c'est que on pourrait le faire pour les Corses, on pourrait le faire pour les Basques, on pourrait même le faire, et c'est une proposition qui est aussi partagée par Jean-Luc Mélenchon, pour les Gilets jaunes, en disant les violences qui ont été commises, les dégradations qui ont été commises, elles ont été faites pour des raisons strictement politiques, et revenir placer cette distinction entre les violences politiques et les violences non politiques, ça pourrait avoir un sens. La réalité, c'est que à la fin du 19e siècle, avec des lois qu'on a appelées les lois scélérates, on a interdit ça. Et on est passé dans une autre conception qui était de dire, au contraire, les violences ou les meurtres, ou les exactions qui ont des motifs politiques sont encore plus graves, parce que c'est du terrorisme, et parce que c'est encore pire, et parce qu'avec les anarchistes de la fin du 19e siècle, on s'était rendu compte que ça permettait de justifier tout, et surtout le pire. Et c'est vrai que Philippe Poutou, en faisant cette proposition, à quelque chose qui peut être intéressant, de se dire, c'est vrai, les gilets jaunes, c'est fini, on pourrait les réhabiliter quelque part, les Corses, les Basques, c'est des anciennes guerres quelque part, on pourrait aussi les réhabiliter, ces gens qui se battent pour des droits. Mais peut-être ce qu'il ne voit pas, ou en tous les cas ce qu'il ne veut pas voir, c'est que si on le fait pour les uns, on doit le faire pour les autres. Et qu'en matière de terrorisme, actuellement et depuis quelques années, on en a d'autres qui, tout autant pour des raisons politiques, qui tout autant pour la manifestation de droits qu'ils estiment légitimes, ont commis les pires exactions, notamment les terroristes de Daesh, et que je ne suis pas certain que dans la proposition qu'il fasse, c'est réellement la volonté qui est la sienne d'en venir jusqu'à libérer tous les prisonniers politiques, même ceux-ci. Et on comprend bien pourquoi, à la fin du 19e siècle, on a fait cette distinction et qu'on a très rapidement refermé cette boîte de Pandore qui, à mon avis, ne devrait certainement pas être réouverte aujourd'hui.
Eh bien, effectivement, cela soulève des questions, et merci pour ce billet d'humeur qui, comme chaque lundi d'ailleurs, nous apporte un éclairage juridique. Merci, Maître Philippe-Henri Honegger, chez Ruben et Associés. À lundi prochain.
Merci à vous. À lundi.
À lundi prochain à 19h43, j'ouvre le standard 01 53 48 3000. Nous allons juste quelques petits problèmes de connexion, me dit-on, concernant Karim Amlal qui doit intervenir sur l'antenne pour le collectif Pluriel. Nous devons donc l'avoir dans une poignée de minutes justement pour parler de Dijon, pour parler de ce déplacement d'Emmanuel Macron, le président donc candidat. Et ensuite tout à l'heure, nous serons évidemment fixés sur le passage du président candidat d'Emmanuel Macron qui sera avec nous, je vous le dis encore, en direct sur Beurre FM, dans les informés spéciales présidentielles 2022, et on continuera de vous faire vivre toute cette campagne. On est quand même, je vous le rappelle, à 2 semaines, à 13 jours de l'élection présidentielle. Autant dire que c'est dans quelques jours. Nous allons marquer juste, vous savez quoi, une courte pause, tout de suite, pour régler cette connexion technique qui rencontre quelques petites difficultés, et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite, voilà, tout de suite avec cette présidentielle 2022.
Les informés reviennent dans un instant. Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Il est 19h47 et nous sommes ensemble pour vous faire vivre justement cette présidentielle 2022. Nous sommes donc, vous le savez, avec le déplacement du candidat Emmanuel Macron à Dijon pour aborder la question de la politique de la ville, mais également aussi des préoccupations des quartiers populaires. Et on continue avec la série des invités, donc Karim Amlal, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Et on aura tout à l'heure Moussa Camara qui sera avec nous tout à l'heure, qui est aussi en direct de Dijon. Karim Amlal, vous êtes le fondateur du collectif Pluriel. Bonsoir Karim Amlal.
Bonsoir Adil.
Bonsoir. Justement, vous venez très bien, je vous remercie infiniment. Vous venez au titre donc de fondateur du collectif Pluriel. Vous êtes aussi par ailleurs l'ambassadeur chargé de la Méditerranée. Dites-moi Karim Amlal, je m'adresse au fondateur du collectif Pluriel. Comment d'abord vous captez cette ambiance de cette élection présidentielle? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les informations qu'on vous fait remonter? Et puis, quelles sont les différentes préoccupations aujourd'hui que vous notez, Karim Amlal?
Pas drôle de campagne, évidemment, on le sent tous. Hein. C'est une campagne qui est écrasée par l'actualité, la guerre en Ukraine. Mais malgré tout, une campagne qui permet de d'éclairer un certain nombre de sujets. Je pense au pouvoir d'achat. Et bien sûr qu'on aurait souhaité que les problématiques liées au quartier populaire, à l'égalité des chances, à la diversité occupent une place plus importante. C'est ce qu'on fait avec Pluriel, à travers des propositions qui nourrissent le débat public. Et je crois que le déplacement du président Macron était important aujourd'hui à Dijon parce qu'il marque l'importance qu'il accorde à ces problématiques dans une campagne qui ne laisse pas beaucoup de place à ces sujets-là.
C'est place à ces sujets. Il est à Dijon en ce moment même et certains d'ailleurs pensent qu'il faudrait peut-être changer cette forme de politique de la ville. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Est-ce que aujourd'hui le visage de la politique de la ville doit prendre une autre forme dans les quartiers populaires? Est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui?
Je suis d'accord avec ça. Ça fait 20 ans plus encore qu'on nous casse la tête avec la politique de la ville, avec l'égalité des chances aussi. Je crois que ce sont des concepts et des politiques qui sont éculés, qui veulent plus rien dire pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de résultat, parce que la situation des quartiers aujourd'hui, à bien des égards, elle s'est aggravée même par rapport à ce qui existait il y a 10 ans, il y a 20 ans, et il y a plus encore en termes de mixité, en termes d'accès aux services publics, en termes d'accès à la réussite. Donc je crois qu'il faut inventer autre chose, il faut inventer de nouvelles politiques. Et puis je vais vous dire, parce qu'il ne faut pas être trop compliqué ou trop sophistiqué, il y a qu'un seul mot qui définit ce qu'on doit faire dans les quartiers et partout ailleurs, en fait, dans toute la France. C'est le mot de République. Vous savez, la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est pas plus compliqué que ça. Si on se bornait à mettre en œuvre ces trois magnifiques principes, on réussirait dans les quartiers comme ailleurs à ce que beaucoup de problèmes soient réglés. Donc n'allons pas chercher des choses trop compliquées, des politiques trop sophistiquées, et essayons de faire exister réellement, dans les faits, pour chacune et chacun d'entre nous, qui que nous soyons et d'où que nous venions, ces beaux principes qui font vivre la République.
Pourquoi la méritocratie est en panne? Vous savez, je poserai la question tout à l'heure au candidat Emmanuel Macron. Elle est en panne parce que l'ascenseur social est en permanence en panne. Comment est-ce que c'est un problème? Franchement, je vous pose la question, Karim Amlal, aujourd'hui.
Pourquoi ce serait pas un problème? C'est un problème énorme. L'ascenseur social est en panne, ça fait là encore, hein, c'est comme la politique de la ville. Ça fait 20 ans, 30 ans, moi, depuis que je m'intéresse à ces questions, j'avais écrit un livre en 2006 qui s'appelait « Discriminément enquête sur nos inégalités ». Quand je le relis aujourd'hui, rien n'a changé. Notamment sur l'ascenseur social, sur la méritocratie, sur la juste récompense de nos efforts. que ce soit le travail, que ce soit les talents, que ce soit l'artisanat, parce qu'il n'y a pas que les grandes études et les grandes écoles dans la vie, évidemment. Et l'ascenseur social, il est en panne parce qu'il faut le dire, il y a des inégalités, il y a des discriminations, il y a des plafonds de verre, il y a un certain nombre de freins et d'entraves qui, justement, font que le principe des qualités n'est pas valable pour tout le monde. Ce que je vous disais, politique de la ville, etc., c'est très bien, mais si on faisait en sorte que pour chacune et chacun d'entre nous, l'égalité, ça veuille dire la même chose, eh bien, c'est-à-dire que quand on s'appelle Karim, justement, ou Leïla, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelle que soit notre origine, etc., notre religion, etc., etc., eh bien, on puisse avoir, non pas les mêmes chances, j'aime pas ce terme, on joue pas au loto, en fait, on a vraiment pas du tout envie de jouer au loto, quelle que soit notre situation, notre statut, nos origines, on puisse réussir de la même manière, atteindre nos objectifs de la même manière. La méritocratie, c'est ça, c'est à chacun en fonction de ses efforts.
Karim Amlal, que dit justement, on vient de me faire signe par SMS que Emmanuel Macron sera dans quelques minutes sur l'antenne de BFM, justement, qu'il est en train de boucler la toute dernière séquence avec Thierry Marx, et son atelier de formation en direction des jeunes. Que dit le collectif Pluriel, justement, quelle est la principale préoccupation de ceux qui animent ce collectif?
Bah, je vais vous dire, la principale préoccupation, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire faire en sorte que, sans aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, la République, elle vive et elle soit une réalité pour chacun d'entre nous. La promesse de la République, c'est ça, c'est l'égalité, la liberté, la fraternité. L'égalité, bah, vous parlez des discriminations, de la méritocratie en panne, etc. Y a beaucoup de gens qui n'en voient pas ou qui n'en voient plus la couleur. La liberté, pareil, pour un certain nombre de personnes, je pense en particulier sur des sujets qui nous sont chers, hein, comme la laïcité, eh bien c'est parfois un peu compliqué. Et puis la fraternité, ça fait bien longtemps qu'on a fait disparaître cette notion de la carte de nos valeurs républicaines. Et je pense qu'il faut les remettre sur la table, il faut les remettre au centre du jeu, et plutôt que de voir comment on peut bricoler la politique de la ville ou une nouvelle politique de la ville, eh bien faut faire en sorte que, encore une fois, l'égalité, ça veuille dire la même chose pour tout le monde. C'est ce que nous faisons avec Pluriel, avec des propositions, avec des engagements, et puis avec une mobilisation de beaucoup de citoyens autour de ces valeurs-là.
Merci Karim Amlal. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de ce collectif Pluriel, mais vous êtes également aussi l'ambassadeur chargé de la Méditerranée. Merci Karim Amlal d'avoir été avec nous dans cette spéciale. À très bientôt. On va marquer une courte pause pub. On se retrouve, je vous l'ai dit. Ça y est, c'est officiel et c'est inédit. Emmanuel Macron, le candidat et non pas le président, est avec nous dans une poignée de minutes. Nous attendons juste la fin de la séquence à Dijon, en direct, où on vient de me signaler qu'il est en ce moment même avec Thierry Marx et l'atelier de formation en direction des jeunes. Et on se retrouve tout de suite après avec Moussa Camara, qui était aussi avec Emmanuel Macron. Et justement, il l'a interpellé et on va en savoir un peu plus. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Il est 19h58 précisément, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est les informés spéciales présidentielles 2022. Nous vous font vivre ce qui s'est déroulé à Dijon. Emmanuel Macron en ce moment même est en train de rencontrer les jeunes avec cet atelier de formation, avec Thierry Marx, c'est la dernière, toute dernière séquence. Et si tout se déroule comme on l'entend en tout cas, eh bien écoutez, sachez qu'il sera avec nous, le candidat Emmanuel Macron, le président candidat, dans une poignée de minutes. Il nous consacrera de façon inédite et exceptionnelle, eh bien cette interview dans le cadre des quartiers populaires, de la politique de la ville, de l'islamophobie, de la discrimination. On abordera, vous savez quoi, sans détour, toutes les questions que vous vous posez vous-même. C'est parti.
Les informés, l'interview.
Avec Moussa Camara. Moussa Camara, vous le savez, je ne le présente même plus, le brillantissime président fondateur du collectif et de l'association qui fait en direction des entrepreneurs les déterminés. Bonsoir Moussa Camara.
Bonsoir Adil.
Merci franchement d'être avec nous. Alors il paraît que vous avez brillé face au président candidat Emmanuel Macron tout à l'heure avec la séquence de cette rencontre avec les acteurs associatifs et entrepreneuriales. Il paraît que vous avez brillé, vous avez secoué la marmite Moussa Camara.
Je ne sais pas si j'ai brillé, mais en tout cas c'était un petit comité restreint. On a pu lui poser des questions, il a répondu assez directement. Et là, en plus, on est en train de rentrer en direct. Hein. Je suis avec Abdelali Balaoui, pour les santé, Nesda. qui est avec moi, Nathalie. Voilà, on est dans la voiture, donc on est en direct là.
On est en direct, effectivement, et je précise qu'il sera dans une poignée de secondes, 20h, et que surtout le président candidat sera avec nous en direct. Sur quoi vous l'avez interpellé, le candidat Emmanuel Macron, Moussa Camara?
Il y a eu plusieurs questions. Moi, j'ai bien évidemment évoqué sur mes sujets, qui sont l'entrepreneuriat et l'employabilité dans les quartiers, et voir à peu près quelles sont les mesures qui vont être prises, mais concrètement dans les quartiers, et ce qui a été fait aussi pendant le quinquennat. Et du coup, il a pu, voilà, c'était un échange à bâton rompu, on a échangé, on a discuté, il a apporté des éléments de réponse, et l'idée c'est d'aller plus loin, c'est que on ne sait pas qui sera le président dans quelques semaines, mais ou la présidente de la République, mais par contre, nos sujets, eux, ils resteront, donc il faut qu'il y a des mesures fortes qui soient faites, vraiment, pour que dans le prochain quinquennat, le visage des quartiers puisse changer radicalement, quoi.
Qu'est-ce qui peut changer radicalement? Franchement, je vous pose la question aujourd'hui, les jeunes des quartiers, ils entreprennent. Comment vous voyez les choses, vous, à court, moyen terme, quand on parle de la crise, quand on parle de la crise économique, quand on parle de tout cela?
Bah, déjà, en moyen terme, c'est vrai que c'est peut-être là qu'on crée le plus, mais c'est là où il y a le moins d'opportunités, et c'est là où il y a le moins d'accès au financement. Donc, en même temps, là où on crée le plus, c'est là où il faut mettre le paquet. Avec la crise, ça a pas amélioré les choses, au contraire. Mais ça laisse entendre aussi tout un tas d'opportunités, parce qu'après chaque crise, il y a des nouvelles opportunités, des nouveaux métiers qui naissent et des nouveaux entrepreneurs qui arrivent avec de l'énergie. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire sur le sujet, c'est que au-delà de la crise, nous, avant ces crises, c'était déjà la crise, quoi. Il y avait déjà des choses qui n'allaient pas forcément et auxquelles on n'a pas su apporter des réponses positives, même si on s'y attelle quotidiennement. Et c'est vrai qu'il y a eu parfois quelques mesures, comme le plan qui a été lancé à Marseille avec Marseille en Grand par le président de la République, où là, c'est une vraie dynamique volontariste sur les quartiers, sur la partie de développement économique, en créant des cartes pour de l'emploi, en accompagnant des entrepreneurs et en créant un capital de jeunes créateurs qui vont permettre de décloisonner tout ça. Et c'est expérimental sur un territoire, et si ça marche, tu peux le décliner partout.
Est-ce que vous l'avez proposé, par exemple, cette idée à Emmanuel Macron, et qu'est-ce qu'il répond?
Bah, il n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions, mais voilà, nous, c'est ce qu'on propose, c'est que finalement, à partir du moment qu'un jeune dans un quartier populaire ou dans un territoire rural présente un projet sérieux, derrière, il faut qu'on arrive à lui trouver et le mettre en phase avec des accès à du financement qui vont être très simplifiés, sans forcément accélérer, accroître les démarches administratives, parce que ce qui tue, c'est tout ce qui pèse auprès des entrepreneurs sur tout ce qui est administratif, et ça, c'est vraiment une perte d'énergie, de temps et parfois d'argent.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes des quartiers populaires aujourd'hui? Qu'est-ce que vous, je sais que vous êtes de Cergy, ils vous disent quoi, les jeunes des quartiers populaires aujourd'hui, sur la politique menée par Emmanuel Macron?
C'est pas un sujet sur lequel moi j'évoque avec les jeunes aujourd'hui, c'est de manière générale. C'est qu'aujourd'hui, il y a un constat. Il y a des choses qui existent, qui marchent très bien. Il y a une vraie tendance à la création d'entreprises aujourd'hui, parce qu'on voit, on l'a vu, les derniers chiffres de l'INSEE qui disaient qu'on n'a jamais autant créé d'entreprises l'année 2021 qu'avant. Et du coup, il y a une grosse hausse de création d'entreprises dans tous les domaines. Après, il faut faire attention de quel entrepreneuriat on parle. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat à court terme, c'est-à-dire précaire, ou est-ce que c'est de l'entrepreneuriat durable? Et tout ça, c'est un vrai sujet. Il y a une vraie volonté, il y a un sujet aussi sur l'employabilité, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les taux de chômage dans certains territoires qui dépassent les 30-40%, oui, et on regarde le nombre d'entreprises qui cherchent à recruter des profils assez divers, il n'y a pas la passerelle, il n'y a pas la connexion. Donc les gens sont tout le temps à la recherche d'emploi. Il y a un taux de chômage qui baisse en manière générale au niveau national, mais qui se renforce encore plus chez les jeunes dans certains territoires. Et là, en fait, il faut combler ce trou-là. Et du coup, la réponse économique, elle doit être l'une des leviers d'inclusion pour tous, quoi.
Un des leviers, justement, je sais que vous, comment vous l'avez vécu, ce déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Dijon? Comment vous l'avez vécu? Mais surtout, est-ce que vous avez capté des choses concernant le candidat? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, par exemple, interpellé, comme Moussa Camara?
Non, moi, il n'y a pas forcément quelque chose qui m'a interpellé. Après, comment on l'a vécu, c'est un déplacement de campagne, hein, c'est, voilà, il est là auprès de la population, notamment dans les quartiers à Dijon, pour échanger, avoir un... Je crois que là, ils sont encore en déplacement. Là. Le déplacement n'est même pas encore terminé. Mais je pense qu'il y a eu aussi pas mal d'interactions avec les habitants. Et je trouve ça bien. Mais voilà, il faut le faire plus souvent. Il faut aller sur le terrain, pas que pendant les campagnes. Il faut y aller quotidiennement, tout le temps. On prend le pouls. Voilà, limite, tous les 6 mois, il faut qu'il y ait un déplacement dans un quartier pour prendre la température et voir si les mesures qui ont été annoncées soient vraiment exécutées. Comment on fait le suivi ? Comment on voit ce que ça marche, qui marche ou pas. Et c'est ça qu'en fait, moi, je me pose la question. C'est bien, en campagne électorale, tout le monde va dans les quartiers. Mais est-ce qu'après cette campagne électorale, les gens vont continuer les candidats ou le président qui va être élu va continuer à agir et d'y aller, surtout garder la proximité, c'est hyper important.
La proximité, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, qui aujourd'hui se posent des questions, qui aujourd'hui saisissent d'aller voter, qui aujourd'hui sont déçus et se disent finalement, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup d'aller voter dans le cadre de cette campagne présidentielle le 10 avril prochain? Vous leur dites quoi, Moussa Camara?
Bah moi, ce que je veux leur dire, c'est tout simplement que je comprends que les gens soient déçus, soient même parfois dégoûtés de la politique. Moi, ça a été mon cas. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si on veut que les choses changent profondément, il faut aller voter, il faut s'engager. Vous votez pour n'importe qui, même pour voter blanc, mais en tout cas, il faut s'engager, il faut aller voter, parce que c'est qu'à ce moment-là que notre voix va compter, parce qu'en réalité, les politiques, comment ils regardent? Ils regardent le nombre de personnes qui votent pour eux. Et si dans les quartiers, on n'est pas présent, on s'abstient, déjà, il y a un risque de voir les extrêmes arriver au pouvoir, et notamment de tout ça, c'est un risque finalement que même quand les gens sont élus, ben, on a été élus sans les quartiers, donc on ne les prend pas en considération et on ne fera rien. Donc moi, j'encourage vraiment toutes celles et ceux qui peuvent aller voter, d'aller exprimer leur voix. C'est hyper important parce qu'on vit dans un pays dans lequel voilà, on est né, nos enfants sont nés, on les élève là, ils font l'école là-bas. On a aussi eu la chance de pouvoir avoir tout ça. Mais si on ne se bouge pas, ben, finalement, c'est les autres qui décideront à notre place. Et à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on puisse s'engager, au moins, au minima, au moins se déplacer pour aller voter. C'est important.
Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Puisque je sens, là, j'entends que vous êtes sur le point de retourner justement en direction de Paris. Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette journée que vous avez vécue à Dijon auprès d'Emmanuel Macron, le candidat?
La journée, qu'est-ce que je retiens de cette journée? Ce que je peux retenir, c'est les échanges directs avec le président de la République. On a pu l'interpeller sur nos sujets. Voilà, il a répondu de manière directe. Et c'est intéressant. Après, on espère que voilà, ce qu'on lui a fait remonter sur les enjeux de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, de la santé pour Abdelali, la représentation, etc., de la diversité dans les médias, etc. Je pense que voilà, c'est des sujets importants qui sont essentiels, mais j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que on puisse en découler des mesures concrètes et réelles sur le terrain. C'est ce qu'on souhaite.
Eh bien, merci Moussa Camara. Vous êtes le président fondateur des Déterminés. Continuez à être déterminé justement.
C'est ce qui.
Merci à vous, Moussa Camara, et bon retour.
Merci
à vous. Justement, nous continuons de faire vivre cette campagne présidentielle où le candidat Emmanuel Macron essaye ou défend tout simplement de mener cette politique de la ville. Il est en ce moment même de clore la séquence avec Thierry Marx et les jeunes, cet atelier de formation. On va marquer juste une courte pause. Et on se retrouve tout de suite après, exceptionnellement. On garde l'antenne, puisque Bilal Nedman, habituellement, occupe cette tranche Time Sport jusqu'à 20h. On le remercie d'avance, Bilal Nedman, puisque, évidemment, édition spéciale oblige. Et nous gardons l'antenne, puisque nous saurons, si tout va bien, avec le candidat Emmanuel Macron, dans une poignée de minutes.
Les informés reviennent dans un instant. Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Avec justement cette édition spéciale à Dijon, avec le candidat, le président sortant, candidat Emmanuel Macron, qui finit sa toute dernière séquence avec Thierry Marx et l'atelier de formation en direction des jeunes. Écoutez, si tout va bien, nous allons la voir dans une poignée de minutes. Bon. Voilà, en attendant, ce que je vous propose, d'abord jingle pour rappeler le numéro.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on vous donne la parole partout en France pour venir nous livrer justement comment vous avez vécu ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a enquiquiné? Qu'est-ce que vous avez noté? Est-ce que vous avez envie d'une continuité ou tout au contraire vous avez envie d'un changement? Eh bien, on vous ouvre. On vous ouvre l'antenne. Vous savez qu'ici, c'est en toute liberté d'expression, chers amis auditeurs. On ouvre l'antenne parce qu'on a besoin aussi de vous entendre. C'est ça aussi, les informés. Allez, 01 53 48 3000. Kamel de Saint-Denis. Bonsoir, Kamel.
Bonsoir.
Bienvenue, mon cher Kamel. Bienvenue dans cette édition spéciale. On vous écoute.
Eh bien merci. Alors, là, je crois m'adresser directement à Monsieur Macron, je crois, non ?
Exactement. Dans une poignée de minutes.
D'accord, j'attendrai peut-être qu'il puisse être à l'antenne.
Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Comment vous avez vécu ce quinquennat ?
C'est-à-dire, comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu, finalement, moi particulièrement, je trouve que je l'ai mal vécu à partir du moment où de la pandémie, le Covid a été connu en France. Chacun voit midi à sa porte, mais moi je le ressens beaucoup plus comme une manière de dicter aux Français des choses qui concernent particulièrement la santé, mais axées sur soi-disant une maladie qui touche le monde. Sauf que on nous dicte des choses hors au niveau de santé. Bon, je suis pas médecin, mais je veux dire par là. Il y a bien des médecins, notamment Luc Montagnier, qui dit bien des choses sur la pandémie, notamment au niveau du vaccin. Comme quoi le vaccin n'était pas particulièrement un vaccin, mais plus un traitement. Et je trouve que aujourd'hui les gens se font traiter par le vaccin et non pas c'est pas une vaccination, c'est plus un traitement. On traite des gens qui sont pas malades. Pas obligatoirement malades. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire du Covid,
j'ai compris.
Ou d'autres choses, mais ça c'est pas moi qui le dis. J'ai pas cette prétention là puisque j'ai aucune étude de médecine, mais je pense qu'aujourd'hui on écoute on a aujourd'hui affaire à deux camps de médecins. Il y a deux camps de médecins et puis deux camps de chercheurs, deux camps de scientifiques, deux camps de virologues. Et puis bien sûr, à chacun de savoir ou de suivre celui ou ceux qu'on veut. Là, en l'occurrence, moi personnellement, j'ai suivi certaines personnes, notamment Luc Montagnier, qui est décédé, qui d'ailleurs aucun hommage ne lui a été fait de par le gouvernement. Je trouve ça quand même abject, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait en l'occurrence un label. Il a été reconnu pour avoir conduit une médecine en France indéniable, et plus qu'une médecine d'ailleurs, puisqu'il a lui-même trouvé le VIH. Mais bon, on ne lui a pas forcément fait un hommage. Et cette personne-là, on dit bien non sur la vaccination. Maintenant, j'ai une question à poser à M. Macron. Quel est son programme particulièrement axé sur la pandémie? Comment il compte nous la soumettre à nous autres citoyens français? Donc, s'il m'entend, je lui pose cette question. Je pense qu'elle est très claire.
Eh bien, elle est notée. Merci, Kamel de Saint-Denis. On va poursuivre 01 53 48 3000. Et on va accueillir dans quelques secondes Karim de Pantin. 01 53 48 3000, je vous attends donc partout en France. Vous savez qu'il est en train de finir avec Thierry Marx. Vous savez, le grand chef, le grand chef, tout simplement, qui a ouvert une formation gratuite de pâtisserie. Une école en direction du grand public à Dijon par donc le grand chef Thierry Marx. Et cette école cuisine mode, justement, elle prend forme, elle s'agrandit et je crois même, j'ai cru savoir qu'en plus de la boulangerie, eh bien, il y a des formations qui accueillent de plusieurs élèves aujourd'hui pour cette vocation. Karim de Pantin. Bonsoir Karim.
Bonsoir Adil.
Bienvenue Karim, on vous écoute. Comment ça va ?
Ça va et vous Adil, bonsoir. Je suis bien content que vous accueilliez le président de la République. Ça prouve... qui va s'adresser à nous, c'est bien. Moi, je voudrais dire deux choses très rapidement. La première chose, bon, c'est un constat, hein, bon, je dis pas que c'est une réalité, c'est mon constat à moi. Je trouve que sous le quinquennat de M. Macron, je pense que là-bas, la parole raciste est extrêmement libérée, et je crois qu'elle a eu carte blanche, et ça m'a beaucoup, beaucoup choqué, parce que moi, j'ai 62 ans, et je ne pense pas avoir vécu une campagne aussi raciste concernant les personnes de confession musulmane. Je vais prendre un seul exemple. Vous vous rappelez du producteur qui a été tabassé par la police, vous vous souvenez, Ziegler?
Oui, oui, je me souviens très bien, bien sûr.
Eh ben, Macron n'a pas pris le temps de l'appeler, hein, alors que Mitterrand s'était rendu quand même à l'hôpital voir Théo. Et par contre, quand quelqu'un a eu la bonne idée de traiter Zemmour de raciste, Macron l'a appelé pendant 40 minutes.
Oui.
Et moi, ça m'a extrêmement choqué, parce que je me suis dit, Macron a choisi son camp, quoi. Et ce que je voudrais dire, la deuxième chose qui me tient beaucoup à cœur, vous savez, bon, les problèmes du chômage, de la précarité, je vais dire de l'écologie, etc., c'est des problèmes que nous partageons tous, français, pas français, musulmans, pas musulmans, je vais dire gens des villes, gens des campagnes. Mais il y a un problème que nous sommes seuls à supporter, c'est la discrimination. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le partagent avec nous. Et je pense que c'est la racine de tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous laissez se développer la discrimination, vous lui donnez un statut d'impunité. À partir du moment où les gens qui se rendent coupables de cela ne risquent rien, rien ne changera dans la société. Moi, je pense qu'il faut faire une lutte impitoyable contre les discriminations, comme on fait une lutte impitoyable contre l'antisémitisme. Oui. Et c'est le même combat. Parce que si vous faites des réformes, et puis qu'on est toujours discriminé, rien ne changera. C'est la racine, la base de tout. Dites à M. Macron que le seul service qu'il peut nous rendre, c'est pas nous donner du boulot ou des logements, c'est de faire de nous des vrais Français respectables.
Sinon, c'est vrai, mais c'est prévu de poser. Mais vous avez raison, c'est prévu, Karim de Pantin, de poser cette question. Vous avez raison. Mais vous êtes beaucoup d'entre vous à vous la poser, et vous êtes beaucoup surtout d'entre vous à la vivre. C'est ça qui est important.
Oui, parce que j'ai l'impression que nous ne sommes plus des gens respectables. J'ai l'impression que quiconque peut venir, se défouler sur nous, c'est normal, quoi, je veux dire. On peut passer à la télé et dire que, écoutez, j'en ai marre de ces gens-là, il faut les renvoyer. Mais l'islam n'a rien à faire en France, ce prénom, c'est un prénom qu'il faut bannir. Mais je suis sûr qu'il y a 15 ans, on n'aurait jamais entendu ça. Hein.
Ah, c'était différent il y a 15 ans. C'était dit,
oui,
mais différemment. C'était dit, mais différemment.
J'ai l'impression que la parole a dit s'est libérée.
Oui, elle s'est démocratisée.
J'ai l'impression que c'est l'impunité qui a fait ça.
Oui, oui, c'est pas faux. Enfin, c'est pas
faux. Merci Adil et bon courage et merci pour tout ce que vous faites et pour tous les services que vous nous rendez. Merci beaucoup.
Bah écoutez, je suis à votre service. Hein. C'est l'info qui est à votre service. C'est comme ça, Beurre FM. Voilà, on fait vivre. Amadou de Grenoble, merci Karim de Pantin. Direction Grenoble, bonsoir Amadou.
Bonsoir Adil, bonsoir à vos invités, bonsoir les auditeurs. Moi, je... Le quinquennat de, le président de la République, il était dans le gouvernement de Hollande, il a fait de son mieux, quoi. Donc, malheureusement, il est tombé, avec coronavirus, la crise de coronavirus. C'est vrai qu'il a fait de son mieux, je ne le juge pas, parce que, on n'est pas responsable de tout. Mais ce qu'il y a, on n'est pas responsable de tout. Donc, sur ce côté-là, même si j'ai dit que, moi, je le juge bon, si les Français ne le jugent pas bon, parce que moi, je ne prends pas parti. C'est pour l'intérêt général. La politique, c'est l'intérêt général. Il est commun. C'est des lois communes à tous les citoyens français. Donc, c'est les Français qui doivent voter, à qui qu'on doit choisir. C'est pas que ça m'arrange à moi seul ou bien, non. C'est sur ce côté-là que moi, j'ai à dire. Eh bien, il faut que nos dirigeants réfléchissent un peu que la France est devenue diverse aujourd'hui. La diversité, même, c'est une richesse. Donc, ceux qui vont gouverner, c'est pas la France des généraux de Gaulle. Il y a le métissage, il y a tout cela. Bon, je laisse la parole aux auditeurs. Une bonne continuation à vous.
Merci, voilà. Amadou de Grenoble. 20h26. Je vais. Je viens d'apprendre à l'instant, vraiment à la seconde où je vous parle, je regardais mon portable, puisque je surveille mon portable, évidemment, les échanges avec les services de communication d'Emmanuel Macron. Et on est contraint. Et alors, je vous présente ce qu'ils viennent me dire, qu'ils présentent vraiment platement leurs excuses. Et on va devoir reproposer une autre date, puisqu'il n'a toujours pas fini sa séquence avec Thierry Marx. Et il y a beaucoup, énormément de retard, ils ont 3 à 4 heures de retard et ils sont encore sur place. On m'a-t-on signalé, là, je viens de lire mes SMS, les échanges avec les responsables des services de communication. Donc je vous lis, voilà, on est en direct, je vous lis ce qu'on me dit et que, ils présentent toutes ces excuses, mais voilà, tout prochainement, on prend date, en tout cas il prend date tout prochainement pour venir ici dans Les Informés, dans cette spéciale présidentielle, pour venir couvrir donc cette campagne, et on en parlera. Donc voilà, donc je vous dis ce qu'on vient, ce que je lis en direct, hein, les échanges que j'ai avec les services de communication du candidat Emmanuel Macron. Je l'apprends donc là à l'instant, donc on va devoir simplement reporter et prendre date, donc un autre jour, puisqu'il est en ce moment même avec une autre séquence qui prend du retard. Voilà, la réalité du live, c'est comme ça que ça se passe. Et puis écoutez, moi je le regrette le premier, hein, évidemment, je l'attendais ce soir, et on va devoir en parler un autre moment. C'est comme ça, il est 20h28, je vous laisse avec Bilal Nedman. Quant à moi, merci à la réalisation, à Giovanni, et à demain, avec autant de plaisir, vous le savez. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez Les Informés tous les jours de 19h à 20h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.